du deuxième chapitre de l'Apocalypse. C'est un livre, après 40 ans de vie avec le Seigneur, qui demeure en certains points énigmatique. C'est un livre que je ne cherche pas volontairement à déchiffrer. Je lis tant de choses en termes d'interprétation qui nous disent que voilà, la fin des temps sera pour demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans. Ce qui m'intéresse, c'est que si le Saint-Esprit ne m'a pas donné de révélation, c'est d'accepter la parole de Dieu telle qu'elle est, mais par contre de recevoir les textes qui aujourd'hui peuvent me parler. Et les premiers chapitres de l'Apocalypse sont des chapitres assez clairs. Et il y a dans le deuxième chapitre une révélation, puisque c'est le titre de ce livre en anglais, Révélation. Des lettres qui sont adressées à différentes églises, à 7 églises. Et j'aimerais en lire quelques-unes qui pourront nous parler, je pense, aujourd'hui à chacun d'entre nous. La première lettre qui est écrite s'adresse à l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est la première lettre. On est là dans l'Apocalypse de Jean. Jean est le dernier apôtre survivant. Il est condamné sur une île qui s'appelle Patmos par les autorités romaines. Un moyen, pensait l'empereur, de limiter l'expansion de l'Évangile et la croissance de l'Église. Et c'est isolé sur cette île de Patmos que Jean écrira les écrits qu'il nous a transmis, à savoir l'Évangile, qui est particulier par rapport aux 3 autres évangiles, les Épîtres et l'Apocalypse. En ce qui concerne les tentatives de l'empereur de limiter par une assignation à résidence sur une petite île l'apôtre Jean, cela a été un échec monumental. Dieu utilise toutes les circonstances pour accomplir sa volonté et aller même au-delà de ce que l'on peut imaginer. Je suppose que l'apôtre Jean était un homme comme nous et que lorsqu'il a débarqué sur cette île de Patmos comme Napoléon plus tard à Sainte-Hélène, il a dû se dire « c'est terminé, il n'y a plus rien à faire, je vais attendre de mourir ». Il était âgé, vieux, il a dû se dire « ben voilà, mon service est terminé ». Et Dieu l'a merveilleusement inspiré et utilisé pour qu'aujourd'hui nous puissions lire dans l'Écriture ces pages merveilleuses de l'Évangile, des Épîtres et de l'Apocalypse. Et lorsqu'il était à Patmos, il a eu cette révélation de Jésus-Christ. C'est comme cela que commence ce livre, Révélation de Jésus-Christ. Il est là et tout à coup le Seigneur lui parle et lui parle à la fois de l'Église telle qu'elle est au moment où l'apôtre Jean écrit, mais aussi il donne à l'apôtre Jean une perception, un aperçu de ce que seront l'Église dans la, ce que sera l'Église dans les temps à venir, et même la fin des temps. Et c'est pour ça que ce livre est compliqué à un moment donné et risqué à interpréter si on essaye de savoir qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. Il y a des choses dans l'Apocalypse, qui nous semble un peu obscur, mais Jean a cette vision-là. Il arrive à voir jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour de Christ, jusqu'à ce moment où la pensée de Dieu s'accomplit pleinement. C'est pour ça que dans certaines églises, vous trouverez les évangélistes affublés d'un animal à leurs pieds. Est-ce que vous avez remarqué cela dans certaines églises ? Alors, il y a des animaux que l'on reconnaît. Si vous voulez retrouver Marc, vous regardez, il a un lion à ses pieds, d'où la place Saint-Marc en Italie, où vous avez les lions sur les colonnes. Vous avez Luc qui est affublé d'un bœuf, parce qu'il est le serviteur et que le bœuf est le symbole du service. Vous avez Matthieu qui est affublé d'un chien. Et puis vous avez Jean à ses pieds. Qu'est-ce que l'on voit ? Un aigle. Pourquoi un aigle, me direz-vous ? Eh bien parce que, isolé sur son île de Patmos, Jean était semblable à un aigle dont la vue arrivait à apercevoir la fin des temps. Belle image. Alors, il commence son livre et le Seigneur lui dit, bien, écris aux sept églises que je vais te nommer. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, c'était une église qui existait. Les sept églises existaient du temps de l'apôtre Jean. Alors, elle représente quoi, cette église ? Est-ce que c'est un message qui nous parle simplement des sept églises qui existaient du temps de l'apôtre Jean ? Certains disent oui. Mais en plus, il s'agit de cette église qui représente l'évolution de l'église de Jésus-Christ au travers des temps. Et c'est vrai aussi. Et puis, ça peut être aussi les sept églises qui existent tout le temps. Celles qui sont fidèles, celles qui sont infidèles, celles qui s'éloignent, celles qui ont des difficultés. C'est vrai aussi. On pourrait retrouver ces sept églises aujourd'hui dans le paysage ecclésial qui existe. Mais me direz-vous, lire ces textes pour entendre parler des églises, qu'est-ce que ça m'apporte à moi ? Mais parce que nous sommes l'église de Jésus-Christ. Et que le message qui est adressé à ces sept églises, ça s'adresse aussi à moi. Je suis l'église de Jésus-Christ, je suis un membre de l'église. Et le bilan qui est posé, le profil qui est donné de ces différentes églises, c'est le profil de ce que je peux être aussi moi-même. Quel type d'église est-ce que je suis en tant que croyant, en tant que chrétien ? Je passais, pour rentrer du travail, par une petite route qui passe par derrière, par l'Anne-Biwe, et puis qui rejoint Kevin. Et en passant, il y a une église, une chapelle, qui est sur ma gauche, juste avant la voie rapide, qui est située à la Trinité. C'est vous dire si c'est une église qui est bien située. Elle est juste au lieu de la Trinité. On ne peut pas faire mieux comme emplacement. Et sur la porte, il y a une étiquette, ou un petit papier qui dit « L'église célébrera un culte au mois d'août ». C'est une église où l'on célèbre un culte au mois d'août. Le restant du temps, non, mais au mois d'août. Il y a plein de chapelles qui fonctionnent comme ça. Qu'est-ce que nous sommes comme église ? Est-ce que nous sommes une église qui ne fonctionnons qu'au mois d'août, une fois par an, une chapelle ? Ou est-ce que nous sommes des croyants qui ne fonctionnons et qui ne sommes ouverts à l'Esprit Saint que le dimanche matin, voire un petit peu le mercredi soir ? Et puis le restant, c'est fermé. Le Seigneur, on est là, mais le Seigneur n'est pas forcément invité à entrer. Quel type d'église sommes-nous, frères et sœurs ? Et la parole que Dieu donne dans l'Apocalypse s'adresse aussi bien à l'église qu'à moi en tant qu'individu. Ici, nous sommes dans une lettre qui s'adresse à cette église, et particulièrement pour la première, à l'église d'Éphèse. Si nous lisons les différents textes, on verra que c'est construit de la même manière. Il y a d'abord un ordre qui est donné à Jean, écrit à cette église-là, et elle est nommée. Ensuite, il y a, par rapport à cette église-là, une présentation de qui est Christ pour cette église. Alors vous me direz, mais est-ce qu'il n'est pas le même pour toutes les églises ? Eh bien, en fonction de quelle église, de ses forces et de ses fragilités, Christ va se présenter d'une manière particulière. De la même manière que Christ est semblable pour chacun d'entre nous. Mais il est des moments où il veut se révéler d'une manière particulière à cause de ce que je suis, de mes forces, des capacités que j'ai développées, de ma foi, mais aussi de mes fragilités, de ce que j'ai encore à gagner comme terrain, comme découverte à faire avec le Seigneur. Alors, Christ se révèle de manière particulière. Et ce matin, une des paroles que nous avons entendues, c'était une parole qui s'adressait à quelqu'un d'une manière particulière, à une personne, parce que Christ savait et sait quel est le besoin de cette personne ce matin. Donc dans la lettre, il y a « Qui je suis pour toi ?»« Qui je veux être pour toi ?» Après, il y a « Je vais te dire quels sont tes points forts. » Et après, « Je vais te dire quels sont tes points faibles. » Et puis après, « Je vais t'encourager, te montrer le chemin, ce que je souhaiterais pour toi. » Et puis ensuite, il y a une promesse, et c'est celle qui, au début, c'est un texte que j'ai souvent travaillé, qui retentit, c'est « Au vainqueur », où vous avez dans vos Bibles « À celui qui vaincra ». Mais je n'aime pas cette traduction, c'est pour moi en grec « To nikanti », c'est « À ceux qui ont la victoire ». C'est « À celui qui a la victoire ».« Au vainqueur ». Il y a quelques années, en 2006, je présentais ce texte, je parlais de ce texte dans une église de la région parisienne et j'avais surveillé les entrées de tous les participants de l'église et notamment des enfants. Et puis après, j'avais appelé une grande partie d'enfants, une douzaine, à venir devant. Et puis j'avais dit à l'église, qu'est-ce que vous pensez des enfants? Il y en a parmi eux qui sont des vainqueurs et d'autres qui ne le sont pas. À votre avis, à quoi allez-vous les reconnaître? Puis les gens ont regardé, ont cherché, « Ah ben il est grand, ah celui, on voit bien qu'il fait du sport, ou celui, etc. etc. » J'ai dit « Non, 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 c'est pas ça. Reconnaissez les vainqueurs. » Et puis, à la fin, je leur ai dit « C'est à cause de leurs chaussures. Pourquoi ?» Eh bien tout simplement parce que en grec, le vainqueur, celui qui a la victoire, c'est Nikeo. Et il y a bien des années en arrière, un fabricant d'articles de sport avait demandé à ses collaborateurs « Trouvez-moi un nom pour notre marque d'articles de sport. » Et tout le monde s'était crossé la tête. Puis il y en a un qui a dit « Écoutez, ça devait être un chrétien. » Il dit « En grec, le vainqueur, la victoire, c'est Nikeo. » Alors on pourrait appeler ça, je ne sais pas, Nike. Et on regardait les pieds de ceux qui avaient des Nike. Hein ? Qui a des Nike à ses pieds ? Tu cours avec quoi, Pascal ? Ouais ? Ah ouais, donc tu ne gagneras pas. À celui qui est vainqueur. Parce que la pensée de Dieu, c'est que nous soyons dans nos vies personnelles, dans notre vie d'église, installés dans une victoire qui nous est acquise en Jésus-Christ. Au vainqueur. Chaque lettre se termine par cet appel. Au vainqueur, et ici je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Au vainqueur, est-ce que nous voulons être vainqueurs dans notre vie ou être dans la défaite? C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment, compte tenu de la crise que nous connaissons. Quels sont ceux qui s'en sortent? Quels sont ceux qui veulent adopter une attitude, un fonctionnement qui leur permettra de remporter la victoire économique, la victoire dans leur vie, etc. Alors pour être victorieux, il y a certaines conditions. La première, c'est que quand on joue dans une équipe, il vaut mieux être dans le camp qui a le plus de chances de remporter la victoire. Choisir le bon camp et être choisi par le bon camp. Moi, je n'ai aucune incertitude là-dessus, je sais que j'ai été choisi pour être dans le bon camp. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libéré de la maison de la servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte, dit l'Écriture dans le Deutéronome, chapitre 7, verset 7. Les Juifs étaient dans le bon camp. Ils avaient Dieu devant eux qui marchaient et qui remportaient les victoires. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Évangile de Jean, chapitre 15, verset 16, c'est moi qui vous ai choisi. Moi, je suis choisi. Quand j'étais gamin, j'étais malingre, faible, pas terriblement fort en sport, et quand on faisait dans la cour de récréation le choix de ceux qui seraient dans tel camp pour jouer au football, etc., moi, je faisais partie des derniers qui restaient sur la liste. L'avant-dernier, quand j'avais un peu de chance, et on me choisissait rarement dans le camp du vainqueur. C'était vraiment par dépit. Mais depuis, j'ai une certitude, j'ai été choisi dans le meilleur des camps, puisque Christ m'a choisi. Alléluia ! Est-ce que c'est cette certitude qui habite notre cœur ? Et puis, commencer, être choisi dans le bon camp, c'est commencer aussi ensuite le combat avec un esprit de victoire. Ce week-end n'est pas bon pour les Français. Hein ? Coupe Davis, on s'est fait ramasser contre les Anglais. Tour de France, deux Français et un Anglais arrivent devant la ligne, les deux Français se regardent, l'Anglais gagne. Typique des Français. On a parfois l'impression que chez les Français, il n'y a pas cet esprit de gagne. Vous voyez ? C'est souvent ce qu'on dit en sport. Les autres, c'est ce que disait Coluche, nous, on vient pour participer et eux, ils viennent pour gagner. Évidemment, on n'est pas en égalité. Dans l'Église de Jésus-Christ, je suis heureux parce que je sais que je suis choisi par celui qui a la victoire et que je peux être dans un esprit victorieux. Que ce soit par rapport aux circonstances, que ce soit par rapport à ma vie, au quotidien, je sais que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je sais que je n'ai pas déjà atteint cela, mais je poursuis ma course afin de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. C'est-à-dire que même si je n'ai pas encore la réalité de la victoire, je sais qu'en Jésus-Christ, je peux avoir un esprit victorieux. Et avoir un chef qui me mène au combat et qui me mène à la victoire, c'est quand même le plus confortable. Est-ce que le chef que je suis est pour moi celui qui me mène à la victoire ? Aux Corinthiens, l'apôtre Paul disait « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ». Est-ce que c'est cela notre réalité ? Ou bien est-ce que nous oublions quotidiennement que celui qui marche avec nous nous conduit dans la victoire dans tous les domaines de notre vie ? Je ne parle pas simplement des victoires au niveau spirituel, sur le péché, sur la mort. Oui, bien sûr, et on le verra dans ces lettres qui sont données, c'est cela. Mais est-ce que j'ai aussi cette certitude que dans les circonstances de ma vie, au quotidien, dans les choix que j'ai à faire, dans les questionnements que j'ai, je crois que Jésus-Christ va me mener à la victoire, quels que soient les combats que j'ai à mener. Écrit à l'ange d'Éphèse, voici, je suis celui qui se tient au milieu des sept étoiles dans ma main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers. Les chandeliers dont il est parlé dans les lettres, ça représente les églises, ça représente ces communautés qui sont censées au milieu du monde apporter la lumière. Mais si on dit l'église c'est moi, Christ est en train de dire, je suis celui qui marche au milieu de ces sept chandeliers, de cette église. Je suis celui qui marche dans ta vie, pour que tu sois la lumière. Lumière pour éclairer tes proches, lumière pour éclairer ceux qui t'entourent, lumière pour apporter de la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Quand on lit les sept lettres des églises, elles sont quasiment toutes imparfaites. Il y en a une qui tire son épingle, c'est Smyrne, mais les autres sont quasiment avec des qualités, certes, mais aussi des défauts, des changements, des imperfections. Et pourtant, Christ se tient au milieu d'elles, quelle que soit leur imperfection, quel que soit ce que je porte en moi, de défauts, de travers, Christ est à côté de moi et marche avec moi. Sa fidélité ne sera jamais prise en défaut par rapport à moi-même. Il est fidèle. Je marche, je me tiens au milieu des sept chandeliers. Christ veut se tenir dans ta vie et dans ma vie. Quels que soient mes doutes, mes craintes, mes questionnements. Éphèse, c'était la plus grande ville, la capitale de la province romaine en Asie. On l'appelait aussi la lumière de l'Asie. Ça a été une des premières villes qui a été touchée par l'évangile, notamment par l'apôtre Paul en l'année 54. Et c'est à partir de cette église-là que l'évangile s'est propagé. C'est une église, si vous relisez le moment où l'apôtre Paul lui écrit dans l'épître aux Éphésiens, relisez le préambule de cette lettre, c'est une église qui est ancrée en Jésus-Christ. C'est une église qui est en lui, en Jésus. Relisez le préambule, c'est en lui vous avez, en lui vous avez saisi, en lui vous avez compris, en lui vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes. À l'époque où, en l'an 54, Paul annonce l'évangile, cette communauté se saisit vraiment de la réalité de Christ. Mais qu'en est-il quelques années plus tard? On s'aperçoit que petit à petit, elle s'est éteinte pour devenir un endroit quasi désertique, misérable. Est-ce que dans notre vie, nous avons pu être, avoir été et ne plus être aujourd'hui? Est-ce que comme Éphèse, nous avons vécu quelque chose de fort et puis, petit à petit, la vie, le quotidien, l'usure, un peu comme dans certains couples, la joie des fiançailles, de l'amour qui naît, mais qu'en est-il après, dans le temps? Est-ce que cela tient? Est-ce que c'est toujours présent? Le Seigneur dit à cette église, et il dit à ceux qui sont semblables à cette église, « je connais tout de toi, tes œuvres, ton travail, ta persévérance. » Alors quand, Éphèse a dû lire cela, parce que les anges dont il est parlé sont écrits aux anges d'Éphèse, c'est aux pasteurs, c'est-à-dire aux responsables de cette église-là. Quand ils ont commencé à lire cette lettre, ils disent, on est pas mal quand même. Les autres, ils sont comment? Ah, mais nous, quand même, qu'est-ce que dit? Je te connais, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. C'est un peu comme le bulletin de scolaire, vous voyez. Français, 10 sur 10. Histoire, 9 sur... pas mal. Maths, 9 sur 10. Là, l'église d'Éphèse, ils vont se dire, on est bon quand même. Sauf qu'après, ils disent, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom. C'est-à-dire que tu as été résistante comme église. Comme chrétien, tu as résisté aux choses qui t'attaquaient, qui venaient peut-être attaquer ta foi. Et après, il y a un « mais ». « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Ah ! Tu as oublié. Tu as abandonner ton premier amour, c'est-à-dire cette flamme qui brûlait en toi pour moi. Et quand on relit l'épître aux Éphésiens, on se dit que c'était vraiment une église qui brûlait d'amour pour Dieu et qui avait le désir d'avancer. Semblable à chacun d'entre nous, que ce soit pour ceux qui sont en couple, souvenez-vous du premier amour. Je ne sais plus qui parlait, on a entendu un témoignage récemment de quelqu'un qui disait, quand je l'ai vu au loin. C'était une artiste peintre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fabienne Verdier. Je regardais une émission et elle dit, je suis arrivé dans une pièce, c'était, je ne sais plus dans quel pays, elle venait des États-Unis, je crois, et elle arrivait à Paris et elle a vu un homme là, ou non, c'était en Israël. Et elle voit un homme, elle dit, mais quand je l'ai vu, j'ai tapé à sur l'épaule de ma copine, regarde, il est fabuleux. Et elle a construit sa vie avec. C'est devenu une des artistes peintres les plus grandes, les plus célèbres en France. Est-ce que lorsque nous avons rencontré Christ, ça a été une rencontre de cette nature? Regarde, il est tellement beau, tellement merveilleux. Il remplit mon regard et mon âme. Est-ce que ce feu du premier amour, nous l'avons éprouvé comme les chrétiens d'Éphèse? Et qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que la marche, la fatigue, qui se comprend, c'est pas du péché la fatigue, mais est-ce que parfois la fatigue a pu prendre le dessus sur notre amour pour lui? J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Dieu veut que nous soyons renouvelés. Est-ce que c'est possible de renouveler son amour pour Christ? Je le crois, à condition de reconnaître où l'on est et de prendre ou de reprendre du temps avec lui. Quand on est dans du conseil conjugal, il nous arrive souvent, là où je travaille, d'accompagner des couples qui sont dans des temps de séparation, d'éloignement. Le travail, si c'est le désir des deux, c'est comment vous pouvez reprendre du temps, vous rencontrer tout à nouveau, tisser du lien, passer du temps, parfois pas forcément en parlant, mais en étant l'un avec l'autre, retrouver, regarder l'autre avec un autre regard, regarder à nouveau ce qu'il apporte de bon, pas simplement ce qu'il apporte de mal. Qu'est-ce qu'il me donne? Qu'est-ce qu'il m'apporte? Prendre du temps avec. Est-ce que nous pouvons reprendre du temps avec Jésus au quotidien? Pouvoir lui parler, l'écouter, le regarder, le découvrir dans l'Écriture, savoir ce qu'il a fait ou ce qu'il fait pour moi. Est-ce que je peux retrouver le temps de mon premier amour pour Jésus? Et puis, ce que dit Christ à cette église, c'est « Souviens-toi d'où tu es tombé ». Ah, souviens-toi d'où tu es tombé. Certainement que cette église a vécu de telles belles choses qu'elle est restée là-dessus et qu'elle a oublié qu'elle avait été rachetée par grâce dans son état de péché et de misère. On peut être tellement fier de ce que l'on est devenu. Quand on parle des églises, vous savez, qui sont des types d'églises, je parlais de celle de la Trinité qui est vide, ou même des églises protestantes qui sont vides, où le Seigneur n'est plus célébré. Mais vous avez des églises aussi qui ont marqué tellement l'histoire, qui ont vécu de grandes choses, et puis qu'on va visiter aujourd'hui en disant « Regardez comme ça, c'est beau, c'est magnifique ». Ça m'arrive d'aller à Notre-Dame de Paris. Je suis allé au début de l'année avec mon fils. On n'est pas rentré dedans parce qu'il y avait 3/4 d'heure d'attente et une file incommensurable pour pouvoir visiter cette église. Vous savez, je me suis dit, c'est formidable, tous ces gens qui veulent rentrer pour prier. Non? Et en fait, ils rentrent pour regarder la beauté de ce bâtiment. Ce que cette cathédrale a été pour manifester sa foi et la gloire de Dieu. Et dedans, vous avez quelques dizaines de personnes qui essayent, vaille que vaille, de prier avec les photos qui sont prises, etc. Est-ce que notre Église, est-ce que ce que nous sommes, c'est un témoignage de ce qui a été autrefois? Et est-ce qu'on invite les gens à rentrer dans notre vie en disant « Regardez ce que j'ai vécu il y a 30 ans !» Regardez l'homme que je suis devenu, la femme que je suis, parce que j'ai vécu des choses dans le passé et que Dieu a fait des belles et magnifiques choses. C'est aujourd'hui que Dieu veut que nous soyons un témoignage de sa vie, pas de ce que nous avons vécu dans le passé. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, c'est que tu ne te souviens pas d'où tu es tombé. C'est qu'aujourd'hui, tu puisses à la fois avoir conscience de ce que Dieu a fait pour toi, mais d'où tu viens? J'étais perdu et aujourd'hui, je suis sauvé. J'étais éloigné de Dieu et de mon Père. Aujourd'hui, il me serre dans ses bras. Je n'ai rien mérité et aujourd'hui, c'est grâce sur grâce. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. C'est-à-dire, elle a la même attitude de cœur qui était la tienne quand tu avais conscience de ton péché et que tu as rencontré ton Sauveur qui est devenu ton Seigneur. Ceci dit, ce que j'ai pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Oh, c'est un texte qui peut devenir un petit peu compliqué. Dieu dit à Éphèse, voilà, j'ai contre toi des choses, mais pour toi, j'ai une chose, c'est que tu as de la haine contre les Nicolaïtes. Et moi aussi. Mais c'est quoi ces Nicolaïtes? Eh bien, c'était un mouvement chrétien qui disait, vous savez, on peut tout à fait être chrétien et en même temps profiter du monde. Et quand il disait profiter du monde, c'était manger de la viande sacrifiée aux idoles. Bon. Mais c'était aussi profiter de la vie, avoir plusieurs femmes, avoir des échanges sexuels avec d'autres personnes. Voilà, c'est pas bien grave tout ça. Et puis, la position de Nicolaïte, c'est de dire, après tout, Dieu est un Dieu de grâce. De toute manière, on sera pardonné. Ah ouais. Il m'arrive d'aller présenter l'Église et ce qu'est la foi des évangéliques au niveau des infirmiers, l'école infirmière ici de Lorient, et de dire, ben voilà, comment est-ce que vous pouvez prendre en compte la foi des protestants évangéliques quand vous accompagnez quelqu'un en fin de vie? Alors on présente ce que c'est que la foi évangélique. Et je passe souvent après un pasteur libéral qui n'est pas évangélique et qui dit, bien, voilà, la foi dans notre mouvement, c'est une foi où on croit en Dieu, on croit en Jésus-Christ, on croit aussi en l'enfer, mais l'enfer est vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens condamnés parce que Dieu est un tel Dieu de grâce que de toute manière, il ne pourrait pas permettre qu'un homme se perde. Et moi, j'arrive derrière en disant, ben, moi je crois, nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en l'enfer, mais nous croyons aussi qu'il y a du monde en enfer, tous ceux qui n'ont pas accepté l'œuvre de Christ pour leur vie. Parce que Dieu est un Dieu de grâce, certes, mais c'est aussi un Dieu de justice. J'ai contre toi des choses, mais pour toi, je sais que tu ne veux pas transiger et que quelque part, tu ne veux pas être dans cette position ou cette attitude de « je marche un pied dans le monde, un pied dans l'Église, un pied dans le monde, un pied dans l'Église », que ce n'est pas une doctrine que tu veux garder au milieu de toi. Dans une autre des sept lettres aux Églises, Dieu s'adressa à une autre église en disant, par contre, contre toi j'ai, c'est que tu acceptes que les Nicolaïtes soient présents au milieu de toi. C'est-à-dire qu'il y ait des chrétiens qui considèrent que parce que Dieu est un Dieu de grâce, on peut faire n'importe quoi. Méfions-nous, regardons notre vie et regardons si véritablement Christ est souverain, exclusif dans notre vie et que nous marchons en nouveauté de vie et en sainteté. Que celui qui a des oreilles, c'est la dernière partie de cette lettre, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, celui qui a ses Nike, à celui qui est vainqueur, c'est pour ça que j'aime pas trop cette traduction qu'on trouve dans certaines Bibles, c'est à celui qui vaincra. Comme si c'était une victoire qui serait à advenir. Non, on est déjà en position de victoire. Même s'il faut se battre, jouer, mais on est déjà en position de victoire. À celui qui a des oreilles et qui écoute ce que l'Esprit dit aux églises, eh bien, au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. On a entendu, c'est cette semaine, la question d'entendre et d'écouter. C'est Francine qui a apporté cette pensée-là en réunion de prière. Les sept lettres aux églises reprennent ce motto. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Qui a des oreilles? Ah, je vois qu'il y en a qui n'en ont pas. Je repose la question. Vous étiez un peu endormi, vous êtes lassé. Qui a des oreilles? Ouais. D'accord, très bien. Alors, on a des oreilles, c'est pas pour autant qu'on écoute. Remarquez quelques maris qui, quand leur femme leur parle, font la sourde oreille. Et je vois qu'il y a certains couples qui se regardent, qui se disent « on est un petit peu concernés ». J'ai rien entendu. Bon, il y a des épouses aussi, hein, faut pas croire, ça marche pas que dans un sens. On peut avoir des oreilles et pas pour autant être à l'écoute de ce qui est important. Et là, le Seigneur dit, ben voilà, à vous autres dans cette église-là, à toi en tant que croyant, tu as des oreilles, écoute ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Et le Saint-Esprit dit, au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça paraît être une promesse qui est particulière. Le mot arbre dont il est question ici, en grec, c'est le xylon. En fait, c'est le bois. À celui qui est vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Le xylon, le bois de vie. C'est très étrange l'utilisation de ce mot, xylon. Parce qu'en fait, ce bois, c'est le mot qui sert à désigner la croix. La croix, le xylon. Je donnerai à manger le fruit du bois, de l'arbre de vie, de bois de vie, c'est-à-dire ce qui donne la vie à partir de la croix. À quoi ça nous fait penser cela? C'est qu'il y a deux références en une seule. Ça fait penser à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Vous vous rappelez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Dieu avait dit à l'être humain, à Adam et à Ève, « Vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » C'est-à-dire que si vous en mangez, vous désobéirez parce que je veux être celui qui soit votre pédagogue et que vous soyez à côté de moi et que vous appreniez à partir de moi ce qui est bon et ce qui est mauvais. Puis vous avez le serpent qui arrive et qui dit « Ah oui, mais si Dieu vous empêche de manger de cet arbre de la connaissance des biens et du mal, c'est parce qu'il sait bien que vous serez comme des dieux à son égal. Donc allez-y. » Et c'est ce qui va se passer. L'homme va choisir non pas de rester dépendant de Dieu, mais de faire son propre chemin. Et à ce moment-là, il y avait deux arbres qui sont présents dans le jardin d'Éden. Il est dit que dans la Genèse au chapitre 2, versets 9 et 3, verset 22, que Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden de peur qu'il ne mange du fruit de l'arbre de la vie et qu'il vive éternellement, mais éternellement dans le péché. Or, la pensée de Dieu, ce n'est pas cela. C'était de dire, voilà, ce que je veux, c'est que maintenant qu'ils ont fait un choix, c'est que je puisse leur proposer un chemin où ils puissent revenir à moi. D'où l'annonce dans la Genèse de la venue du Messie qui donnera sa vie et qui écrasera la tête du serpent. Mais sortons-le du jardin afin qu'il ne mange pas du fruit de l'arbre de la vie, mais et qu'il vive éternellement dans le péché, mais qu'il puisse, à partir de leur position de péché, retrouver un chemin de communion et de salut avec moi. Alors, il est dit que cet arbre dans le jardin d'Éden produit du fruit chaque mois, 12 tous les mois, et ses feuilles servent à la guérison des nations. Et là, on a une révélation dans l'Apocalypse, vous voyez, le livre qui ouvre la Bible, le livre qui la ferme, où il est parlé de l'arbre de la vie. Je donnerai à manger de l'arbre de la vie, du bois de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Et le bois de la vie, c'est la croix. À la croix, nous avons à la fois ce qui peut nous permettre de vivre véritablement en plénitude, 12 fruits, ça fait penser aux fruits de l'Esprit Saint, ces fruits qui nous permettent de vivre la vie de Dieu, et ces feuilles servent à la guérison des nations. Quelles sont les feuilles de l'arbre de vie qui peuvent guérir les nations, qui peuvent guérir nos vies? À celui-là, à toi Éphèse, à toi croyant, je te donnerai, si tu entends ma voix, si tu entends ce que l'Esprit Saint te dit, je te donnerai et la vie et la guérison par cet arbre de vie qui a été planté à Golgotha et qui représente cet arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. Dans cet arbre planté, ce bois planté à Golgotha, eh bien, vous avez j'ai la guérison et la vie. C'est ce que Dieu dit dans cette lettre adressée à Éphèse. Est-ce que nous avons des oreilles pour entendre ce que l'Esprit Saint dit à l'Église, ce que l'Esprit Saint me dit aujourd'hui? Seigneur, merci parce que tu nous parles, et tu nous parles aujourd'hui comme tu parlais hier, parce que ta parole est vivante et qu'elle ne s'adresse pas uniquement à des églises du passé, à des croyants du passé, à des pasteurs ou des bergers du passé, mais parce que ta parole est vivante et qu'elle nous parle à nous aujourd'hui. Donne-nous, comme pour cette église d'Éphèse, de demeurer fidèle, persévérante, active. Donne-nous en tant qu'église, en tant que fils et filles de ton royaume, d'être animés par ton esprit. Et si le feu de notre premier amour s'est, sinon éteint, du moins atténué, donne-nous de retrouver dans notre relation avec toi, véritablement, Seigneur, le feu de l'amour premier. Ranime notre foi, ranime notre zèle. Donne-nous d'avoir envie de toi et davantage encore. Ne nous laisse pas, Seigneur, demeurer dans cet état et parle-nous afin que nous puissions là aussi nous repentir et trouver des chemins pour retisser du lien avec toi, de la relation et nous laisser remplir par ton amour et ton esprit.
J'aimerais vous lire la fin de la première épître de Jean, quelques versets du verset 5, du chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le Saint. Et les trois sont d'accord. Ces trois témoignages étaient réunis quand Jésus a été crucifié. Sur la croix, son sang a versé. Il nous est dit que quand son côté a été percé, de l'eau et du sang ont coulé. De là est née l'Église. Elle est née de l'Esprit et de la parole. Je suis né, nous sommes nés de l'Esprit et de la parole. Et cette même alliance nous est proposée. Christ a donné son sang. Il nous a donné sa parole. Il nous nourrit, il nous donne